Trèfle à quatre feuilles, l'émission juive décoloniale et diasporiste.
Oui, parce qu'on est rare. Donc, si vous nous écoutez, vous avez de la chance.
Bienvenue dans ce nouvel épisode mensuel. Tellement de choses à aborder, à raconter, à expliquer. Je n'aurai de nouveau pas le temps de tout aborder en un seul épisode, ça c'est sûr. Alors, à l'heure où je réalise cet épisode, plus de 400 morts en une nuit à Gaza, suite à la rupture du cessez-le-feu par l'État sioniste. Il est plus que temps, il est plus que nécessaire d'escalader la lutte et la résistance et notre solidarité envers les Palestiniens et les Palestiniennes, que ce soit à Gaza, en Cisjordanie, ainsi que les nombreuses personnes réfugiées partout dans le monde. Dans une démarche de solidarité pour tout mouvement soutenant la résistance palestinienne et le boycott de toute institution sioniste, Ajab a organisé un Shabbat décolonial pour ce vendredi 21 mars. Oui, ce vendredi 21 mars, équinoxe de printemps, avec l'UPB, University Workers for Palestine et l'intercercle de l'ULB pour la Palestine et le Liban. L'UPB, comme vous le savez peut-être, a été victime de répressions violentes de la part de la police avec la complicité de la rectrice de l'ULB, Anne Michaux. Des personnes liées de près ou de loin à l'occupation par l'UPB des bâtiments de l'ULB sont convoquées et pour beaucoup se trouvent dans leur convocation des menaces de poursuites judiciaires pouvant mener à la privation de liberté, autrement dit, à de l'emprisonnement. L'accusation porte sur une supposée appartenance à un groupe prônant la ségrégation et la discrimination raciale. À défaut de pouvoir les accuser d'apologie du terrorisme, et car la Belgique ne reconnaît pas la critique ni l'appel au boycott d'Israël comme étant de l'antisémitisme, dans sa définition légale de l'antisémitisme, c'est ainsi que les accusations de racisme, discrimination, ségrégation pleuvent sur les militants prônant la solidarité avec le peuple palestinien et le boycott des institutions sionistes. En Belgique, heureusement, il n'y a pas de délit infraction d'apologie du terrorisme, en tout cas pas encore, même si l'EMR essaye depuis 2015, donc depuis 10 ans, de faire passer une proposition de loi qui érigerait l'apologie du terrorisme en un crime passable de prison. C'est une proposition qui avait été refusée à l'époque. D'ailleurs, la même année, en 2015, le Hamas, malgré sa contestation, avait été mis, puis démis, puis remis dans la liste des organisations terroristes par l'UE. Et l'argument était les lancers de roquettes en 2014 en réponse à la première vague génocidaire de la part d'Israël. Israël n'a pas été mis sur cette liste d'organisations terroristes. Pour en revenir au MR, il aurait récemment fait passer une proposition de loi érigeant l'apologie du terrorisme, cette fois-ci en infraction ou délit. On peut donc s'attendre à ce que ce soit bientôt le cas, d'ici 2026, Et en plus, connaissant les positionnements de Gloub au sein du MR, on peut facilement imaginer que tout soutien à la résistance palestinienne rentrerait dans les critères d'un tel délit. Pour le moment, il ne serait pas question d'arrestation, mais seulement d'intimidation à travers des convocations pour infraction. En France, c'est déjà le cas, avec plus de 600 convocations pour ce délit depuis le 7 octobre 2023. Cela face à toute contextualisation du 7 octobre 2023, ainsi qu'à tout propos qualifiant de riposte ou de résistance les actes du Hamas. Mais comment un tel délit peut vraiment exister alors que le terrorisme n'est même pas défini dans le droit international? En effet, si on définissait le terrorisme, cela risquerait d'incriminer beaucoup d'États, comme les USA, comme la Turquie envers les Kurdes et les Arméniens, comme l'Azerbaïdjan envers les Arméniens, Israël envers ses voisins et encore d'autres. À défaut donc d'avoir un consensus international sur la définition du terrorisme, il y a une définition pour les crimes contre l'humanité, ainsi qu'une liste qui reprend toutes les organisations considérées comme terroristes, parmi lesquelles figurent le Hamas, évidemment, mais aussi le PKK, la résistance kurde. D'après le droit international, prendre pour cible des civils n'est pas considéré comme des actes légitimes de résistance armée, mais comme des crimes contre l'humanité. Le gouvernement israélien, comme je l'ai dit, n'apparaît pas sur la liste des organisations terroristes, malgré ses crimes contre l'humanité répétés, le génocide en cours et tous les actes terroristes commis depuis le début de sa création. Le Hamas, par contre, oui, comme dit plus tôt, et des lancers de roquettes en 2014 ont suffi à cela, avant même que les horreurs du 7 octobre soient commises. Cette qualification de terrorisme est une stratégie purement géopolitique, évidemment, car elle permet de délégitimer le Hamas en tant que groupe politique, en tant qu'administration et en tant qu'armée. Par conséquent, ça délégitime toute résistance palestinienne, même si elle n'est pas liée au Hamas. Et d'un autre côté, ça permet de plus facilement légitimer le gouvernement israélien, malgré ses actes terroristes. On voit bien où tout cela mène, à la création d'infractions d'apologie du terrorisme et à la justification de la répression des mouvements de solidarité. Et la répression de l'UPB en est un bel exemple. La justification de garde à vue, d'enquête, de surveillance de toute organisation militante solidaire envers les Palestiniens. C'est pourquoi Ajab, en tant que collectif juif antisioniste et solidaire de la résistance palestinienne, soutient les gens qui, de près ou de loin, sont liés à l'UPB et sont convoqués. Cela pour montrer plus que jamais que l'antisionisme n'est pas de l'antisémitisme, que le sionisme est une idéologie et un projet raciste, suprémaciste et colonialiste et qui n'a rien à voir avec le judaïsme. Pour continuer avec les nouvelles militantes, un tournoi de futsal antiraciste Martin Luther King aura lieu ce samedi 22 mars dans le cadre de la plateforme belge Lève-toi contre le racisme, la même plateforme qui organise la marche contre le racisme de ce dimanche 23 mars. C'est une plateforme composée de 150 associations présentes à travers tout le pays et qui organise depuis 2018 des actions antiracistes dans plusieurs villes de la Belgique. Ce tournoi permettra de mobiliser des jeunes et moins jeunes sur les questions de la discrimination. Et au vu du contexte actuel, la résistance du peuple palestinien a été mise à l'honneur, ainsi que le combat des personnes sans papiers et demandeuses d'asile. C'est pourquoi, parmi les équipes présentes, il y aura une équipe palestinienne, ainsi qu'une équipe antisioniste, mixte, juive et palestinienne. Il y a également une marche antiracisme le lendemain. Venez en nombre. Il y aura un bloc juif présent pour ceux qui voudraient les y rejoindre. Il y avait d'ailleurs samedi passé, à l'avant du cortège dans le cadre de la manif contre les violences policières, les jeunes de l'UPJB. La relève est, on l'espère, assurée. Sachez que le samedi 22 mars, en même temps que le tournoi de futsal, il y a une journée Palestine, création en résistance, en collaboration avec le DK et l'UPJB. Aujourd'hui même, ce jeudi 20 mars à 13h, il y a une manifestation Stop Genocide, Stop Impunity pour demander un arrêt du génocide immédiat. Et l'UPJB fait partie de la coalition de la solidarité derrière cette manifestation. Il y a aussi samedi 22 mars, il se passe plein de choses samedi 22 mars. Dans les locaux de l'UPJB, il y aura une conférence de gauche antiraciste sioniste, équation impossible, avec une rencontre qui sera organisée autour de Maxime Benatouille, dont je parlais dans l'épisode précédent, et d'autres membres de l'UPJB. Donc ça sera une rencontre autour du livre « Contre l'antisémitisme et ses instrumentalisations » que j'ai présenté dans l'épisode précédent. Notez aussi que le jeudi 27 mars, il se déroule « Apartheid Free Zones ». C'est de nouveau l'UPJB qui accueille cette initiative de BDS et de l'ABP. C'est une soirée de présentation des « Apartheid Free Zones ». Ce sera dans le cadre de la Israeli Apartheid Week, donc la semaine prochaine, c'est la semaine de l'apartheid israélien. La soirée se déroulera à partir de 18h à l'UPJB. Donc ça sera pour présenter la campagne Apartheid Free Zone. Notez aussi que le 30 mars, ce sera la Land Day, donc la célébration de la date symbolique pour les Palestiniens. Le 17 avril, ça sera la journée internationale de solidarité avec les prisonniers palestiniens. Et le 15 mai, il y aura une manifestation nationale à l'occasion de la journée de la Nakba. Maintenant, nous allons écouter une petite prière d'inauguration de Shabbat, l'Echa Dodi, pour accueillir Hamalka, la reine, la sainte épouse de Dieu, celle qu'on appelle Shekhina, celle pour qui on fait un festin à chaque Shabbat, pour lui donner envie de nous rejoindre. Car chaque Shabbat est une invitation au repos et au plaisir, à unir en soi les pôles masculin et féminin. Pour terminer cet épisode, je vais vous raconter une histoire. En effet, je ne peux pas ne pas vous parler de la fête de Pourim, la fête juive qui avait lieu le week-end passé, du 13 au 15 mars, le jour de la marche contre les violences policières. Symbolique, non ? Pourim, c'est une sorte de fête de carnaval juive. Traditionnellement, on se déguise, préférablement avec des attributs créant la confusion autour du genre, mais aussi du bien et du mal. On est censé être ivre, au point de ne plus pouvoir distinguer le bien du mal, ni le genre. Je vais vous raconter cette fête, comme on me l'a transmise enfant, mais aussi pourquoi elle est en lien avec l'actualité et instrumentalisée à nouveau par les sionistes. Accrochez-vous. Alors, pour résumer, l'histoire de Pourim se trouve dans le livre d'Esther, un livre qu'on appelle la Megillah. C'est, comme d'habitude, une histoire de massacre envers les populations juives qui est déjouée in extremis. C'est une célébration d'une victoire contre l'antisémitisme. Il y a de nouveau une femme au centre de l'histoire, comme dans Hanouka avec Judith qui tranchait la tête du général de l'armée dans sa tente en se faisant passer pour une prostituée. Ici, la femme au centre de l'histoire, c'est Esther. Esther est juive et élevée par Mordechai, son oncle ou son cousin. L'histoire se passe en Perse, sous le règne du roi Assuérus. Après la destruction du temple de Jérusalem, et donc après l'épisode de Hanouka, le roi Assuérus était alors marié à Vashti, la fille du roi de Babylone, et petite-fille du puissant empereur Nabucodonosor. L'empereur Nabucodonosor a été responsable du massacre de beaucoup de juifs. Je me souviens qu'on me racontait que le roi Assuérus, lors d'un festin, a prié son épouse royale, Vashti, de se présenter dans toute sa beauté, nue, pour danser devant les convives. Elle refusa de se plier à ses ordres, se plaignant d'être traitée comme une servante, et le roi entra dans une colère folle et la condamna à mort. Elle fut donc exécutée. Suite à cela, le roi dut trouver une autre femme, et c'est là qu'entre Esther dans l'histoire. À Suse, elle vivait paisiblement, élevée par son cousin Mordechai. Mais un jour, les autorités du roi sont venues la chercher pour qu'elle se présente, comme plein d'autres jeunes vierges des régions annexées, comme prétendante auprès du roi. Le roi la choisit comme reine, sans même savoir qu'elle était juive. Plus tard dans l'histoire, elle demande au roi, sans dévoiler sa propre judéité, de prendre Mordechai, son oncle, comme conseiller pour le roi. Elle lui explique qu'avoir un juif parmi ses conseillers, ça serait très utile. Par la suite, Mordechai prouve sa loyauté au roi en déjouant une tentative de meurtre envers le roi. Et toujours pour résumer, un homme entre de l'histoire, c'est Aman, un riche homme de la région, qui a été promulgué chef du conseil des ministres du roi. Il avait une haine contre les juifs et plus particulièrement contre Mordechai, pour des raisons que je ne vais pas détailler ici. En tout cas, il espérait anéantir les juifs des 127 pays de la Perse. Il avait essayé de convaincre le roi, qui au début résistait, qui avait peur, en disant « Oui, mais leur dieu est puissant et il se pourrait que je subisse le même sort que Nabucodonosor et d'autres monarques avant moi qui s'en étaient pris au peuple juif. » Et à bout d'arguments, le roi a cédé et il s'est laissé influencer par les arguments de Aman. Il a donc donné à Aman les pleins pouvoirs pour organiser le massacre des Juifs de la Perse. Aman fit donc immédiatement appeler les scribes du roi et leur donna l'ordre de préparer deux décrets royaux à faire parvenir à tous les ambassadeurs et gouverneurs des 127 provinces. Dans ces ordonnances, il était prescrit à tous les gouverneurs de donner des armes au peuple pour le 13 Adar, c'est le calendrier juif, afin que ce jour-là, les Juifs soient massacrés par le peuple. Mordechai, d'une certaine manière, a été mis au courant de cette machination et il a demandé à la reine Esther, donc sa nièce ou cousine, d'intervenir auprès du roi pour sauver le peuple juif. Il était donc enfin temps que Esther révèle au roi sa nationalité, ou en tout cas son identité juive, et qu'elle, en plus, lui demande qu'il ne soit fait aucun mal au peuple juif. Elle a donc organisé un banquet auquel elle a convié Aman et le roi, et durant lequel elle avait planifié d'exposer les plans de Aman. En attendant, Aman, pour être sûr de se débarrasser de son ennemi juré, à savoir Mordechai, avait fait dresser une potence de 50 coudées de haut. Le banquet arrive. Le roi demande à Esther, son épouse, qu'il aime énormément. Il lui demande « Tu n'as sûrement pas organisé ces deux banquets pour faire plaisir à Aman. Dis-moi, quel est ton désir? Je t'accorderai même la moitié de mon empire. Seulement, ne me demande pas la permission pour les Juifs de reconstruire leur temple, car il se trouve dans la moitié du royaume que je me réserve. » Esther lui répond alors « Je ne souhaite qu'une chose, c'est que ma vie et celle de mes compatriotes soient préservées, car nous devons, mon peuple et moi-même, être perfidement et impitoyablement exterminés, égorgés et anéantis. » Le roi est alors choqué et il demande à sa femme, Esther, « Mais qui ose faire une chose pareille, ne sachant toujours pas qu'elle est juive ?» Esther répond alors en accusant Aman et en disant « C'est notre oppresseur et notre ennemi, cet odieux Aman. C'est lui qui a voué au malheur la reine Vashti et c'est lui encore qui veut m'ôter la vie. » Effectivement, c'était Aman qui avait fait pression pour que Vashti soit condamnée à mort. Le roi, apprenant cela, déclare alors « Qu'on pend Aman à la potence qu'il avait érigée pour Mordechai. » Et donc, normalement, l'histoire se finit comme ça. Aman est mort, tout le monde est content. Mais moi, ce qu'on ne me racontait pas quand j'étais petite, c'est que, suite à ça, le roi a fait un nouveau décret, parce que l'autre décret lancé par Aman a été déjà envoyé pour exterminer les Juifs. Et donc, un décret a été envoyé déclarant que les Juifs avaient le droit de s'armer pour pouvoir se défendre face au peuple qui voudrait les agresser. Il y a donc eu un massacre énorme entre les Juifs qui voulaient se défendre sur la place publique et tous les gens du peuple qui ne voulaient que voir couler le sang des Juifs. Donc Pourim, apparemment, c'est aussi ça. C'est un avertissement solennel envers les ennemis d'Israël et les Amans de tous les temps. La fête de Pourim, c'est donc et une fête, une célébration de lutte contre l'antisémitisme, mais c'est aussi une revendication de la nécessité à la résistance armée face à l'oppresseur. Malheureusement, cette dernière partie de l'histoire est évidemment instrumentalisée par l'État sioniste pour justifier tous les actes terroristes qu'ils commettent envers les Palestiniens, plutôt que de retenir le vrai message de l'histoire de Pourim. Comme quoi une même histoire peut avoir plusieurs lectures différentes en fonction des lunettes qu'on met quand on la lit.